Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Dime.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Claude Nior. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Louis Servan-Schreiber et Philippe Grimbert à l'occasion d'un dossier intitulé « Par quoi remplacer Dieu ?» dans le magazine Clé. Bonjour à tous.
Jean-Louis Servan-Schreiber, vous êtes journaliste et essayiste et vous avez récemment publié « Trop vite » en 2010 et « Aimer quand même le 21e siècle » en 2012, ouvrage pour lequel d'ailleurs nous vous avions reçu ici même. Vous dirigez avec votre épouse Perla le magazine Clé. Vous êtes président pour la France de l'ONG Human Rights Watch. Philippe Grimbert, vous êtes, vous, psychanalyste, essayiste et écrivain, auteur de différents essais dont le titre ne sont pas dénués d'humour, le contenu non plus d'ailleurs, comme par exemple « Pas de fumée sans Freud »,« Évitez le divan »,« Chantons sous la psy ». Vous avez commencé votre carrière de romancier avec « La petite robe de Paul », suivi de « Un secret » qui a obtenu le prix Goncourt des lycéens. Dans « Avec Freud au quotidien », qui est paru en 2012, vous portez un regard psychanalytique sur différents sujets de société. Et aujourd'hui, vous allez porter un regard psychanalytique sur la question de Dieu.
Sur la question de Dieu et sur la question, évidemment, des substituts de la croyance. Mais on va peut-être commencer, Lélie, par un célèbre texte de Nietzsche.
N'avez-vous pas entendu parler de ce démon qui, dans la clarté de midi, alluma une lanterne, se précipita au marché et cria sans discontinuer « Je cherche Dieu, je cherche Dieu !» Étant donné qu'il y avait justement là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, il déchaîna un énorme éclat de rire. « S'est-il donc perdu ?» disait l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ?» disait l'autre. « Ou bien s'est-il caché ? A-t-il peur de nous ? S'est-il embarqué ? A-t-il émigré ?» Ainsi criait-il en riant dans une grande pagaille. Le démon se précipita au milieu d'eux et les transperça du regard. « Où est passé Dieu » lança-t-il. « Où est passé Dieu ? Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous sommes tous des assassins. Mais comment avons-nous fait cela ? Comment pûmes-nous boire la mer jusqu'à la dernière goutte ? Qui nous donna l'éponge pour faire disparaître tout l'horizon ? Que fîmes-nous en détachant la terre de son soleil ? Où l'emporte sa course désormais ? Où nous emporte notre course ? Loin de tous les soleils. Ne nous abîmons-nous pas dans une course permanente ? Et ce, en arrière, de côté, en avant, de tous les côtés ? Est-il encore un haut et un bas ? N'errons-nous pas comme à travers un néant infini ? L'espace vide ne répand-il pas son souffle sur nous ? Ne s'est-il pas mis à faire plus froid ? La nuit ne tombe-t-elle pas continuellement et toujours plus de nuit ? Ne faut-il pas allumer des lanternes à midi ? N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ensevelissent Dieu ? Ne sentons-nous rien encore de la décomposition divine ? Les dieux aussi se décomposent. Dieu est mort. Dieu demeure mort. Et nous l'avons tué.
Alors Philippe Grimbert, je commençais avec vous parce que bon, ce texte est magnifique. C'est un des textes les plus célèbres de Nietzsche qui, et avant de s'interroger sur les conséquences, évidemment, parce que c'est la grande question de Nietzsche, hein, c'est les conséquences de la mort de Dieu qui pressent. Déjà, on voit les faits, c'est-à-dire que ce dernier sondage donc, les confirme cette perte de foi de plus en plus chez les Européens, notamment les Français. Il n'y a plus que finalement un tiers des Français qui croient en Dieu. On va en parler avec vous, Jean-Louis Servan-Schreiber, tout à l'heure. Mais vous, vous êtes particulièrement intéressé, Philippe Grimbert, notamment dans un article dans ce dossier, sur au fond les substituts de Dieu. Et je voudrais revenir peut-être à Freud avant. Freud, dont je crois que c'est l'avenir d'une illusion, nous montre que pour lui, la croyance en Dieu est une croyance infantile qu'il faut pouvoir dépasser. C'est le désemparement, la peur, effectivement, l'insécurité face à la mort, face aux parents qui ne sont pas tout puissants. Est-ce que Freud lui-même croyait possible la possibilité de n'avoir aucun dieu de substitution si le dieu judéo-chrétien est mort?
Freud a eu beaucoup comme ça d'idéaux qui ne se sont pas forcément réalisés. En particulier, il pensait qu'en accédant à la culture et en permettant à tous l'accès à la culture, on éviterait absolument la barbarie. Hélas, il s'est trompé. Mais n'empêche que c'était un idéal magnifique. En ce qui concerne Dieu, Freud était un athée, un laïc, bien qu'élevé dans une tradition juive, mais pas du tout religieux. Et je ne pense pas qu'il ait imaginé d'autres substituts que la culture elle-même, que le savoir. Et d'une certaine façon, le dévoilement du savoir insu, c'est-à-dire l'inconscient. C'est très intéressant. Freud, en effet, vous le rappeliez, apportait quelque chose de très très précieux dans l'analyse, d'une part des actes religieux, puis de la pensée religieuse déiste elle-même. Dans les actes mêmes, il avait l'outrecuidance de dire que la religion était en quelque sorte la névrose obsessionnelle universelle. Ce qu'il entendait par là, la névrose obsessionnelle, se caractérise en général par des rituels, des tics, voire ce qu'on appelle aujourd'hui des tocs, très dans les onomatopées. Et il y a quelque chose de cet ordre, en effet, dans le rituel religieux qui se rapproche, y compris dans l'intention, des rituels des grands obsessionnels. Il s'agit d'empêcher qu'un malheur fonde sur vous. Et quand vous interrogez un patient obsessionnel qui dit « je ne peux pas m'empêcher de taper 3 fois sur la table, de faire 2 fois le tour de tel endroit avant de prendre une décision, ou même une « je ne sais même pas pourquoi je le fais », en général, quand on creuse un peu, c'est « ça va éviter qu'un malheur fonde sur moi ».
C'est l'angoisse qui crée ça.
L'angoisse. Et c'est un mode de lutte contre l'angoisse. Et dans ce sens, Freud nous dit que la religion est un mode de lutte contre l'angoisse.
Avec tous ces rituels ultra codifiés,
voilà,
la nécessité de faire tel acte, tel rituel
absolument.
Au bon moment, etc.
Qui s'apparente absolument à ces rituels de la névrose obsessionnelle. Ça, c'est une première chose. D'autre part, Freud dit que par rapport à Dieu, évidemment que la croyance en Dieu est une, vous le rappeliez, une dérivation des croyances infantiles. Il faut dire que le tout petit n'a en face de lui qu'un autre absolu qui est l'autre parental, je dirais, que ce soit le père ou la mère, mais en tout cas une sorte d'entité, c'est pas mal pour parler d'un dieu, une entité dont il est issu, qui sont ses créateurs, et en qui il doit avoir une confiance absolue puisqu'il naît dans un état de totale dépendance. C'est quand même ce qui caractérise le tout petit que nous avons tous été, c'est-à-dire la dépendance. Nous sommes dépendants par nature, dépendants d'un autre. Nous ne pouvons pas subvenir à nos propres besoins seuls quand nous sommes petits. Et donc, nous sommes dans la main, non pas de Dieu, mais en tout cas de ceux qui en font office, c'est-à-dire les parents, qui vont non seulement nous donner un cadre, éventuellement nous punir, nous fournir les interdits et les permissions, enfin quelque chose qui évidemment déjà résonne comme une entité divine. Quand nous allons sortir de cette croyance-là, c'est-à-dire de croire que nos parents sont tout-puissants, il faut bien reconnaître que nous avons besoin, quelque part, de nous référer à
une autre source de protection,
une autre toute-puissance.
Qu'on va appeler la Providence, par exemple.
La Providence, ou qu'on va appeler Dieu, bien sûr, qui est, à l'évidence, notre Père. Le nom du Père, le nom de Dieu, évidemment, est quelque chose qui se situe du côté de l'autorité paternelle, puisque quelque part, dans l'évolution de l'enfant, l'espèce de symbiose qu'il a entretenue avec sa mère va se déplacer peu à peu laisser un peu de place au langage, à l'espace, que le père va permettre par sa présence, par sa parole, par son autorité. Je dis bien dans l'absolu. Mais enfin, c'est quand même une fonction. La fonction du père et la fonction de la mère permettent ce jeu de rôle très important. Et c'est cette fonction du père qui ensuite va être érigée à la fonction de père éternel, c'est-à-dire ce besoin que nous avons absolu de croire en quelque chose, c'est bien un besoin qui est né de notre angoisse existentielle. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quelque chose qui est absolument fondamental chez tous les hommes. Et bien sûr, l'angoisse de la mort et de l'après. Et ça, Dieu vient évidemment fournir une réponse formidable. Parce que sans preuve, donc du côté de la croyance, et non pas de la réalité scientifique, à cette angoisse majeure. Donc Freud a très joliment démontré comment la figure paternelle se déplaçait en une figure paternelle éternelle. du père de l'enfance au père éternel. Ce qui nous montre à quel point nous avons besoin, puisque quand même nous avons été assez nombreux à croire en Dieu, il faut bien le dire, besoin que quelque part, quelqu'un puisse garantir notre existence, la réalité du monde, la parole, tout ce qu'on veut, parce que toutes ces choses-là ne sont pas garanties.
Alors, est-ce qu'on pourrait pas, avec du recul, répondre à Freud, notamment après tout ce qui s'est passé après lui, avec Jung, la critique qu'a fait Jung de Freud par rapport à la religion, est-ce qu'on pourrait pas répondre à Freud que, sans doute, puisque ça paraît très, très convaincant tout ce qu'il dit, mais que ça répond pour ça à une critique, je dirais, d'un dieu totalement extérieur, dieu des monothéistes, oui, qui rétribue, etc., qui correspond dans la Bible à cette figure-là, mais qui a une toute autre dimension du divin, qui est beaucoup plus intérieure, qui est beaucoup plus subtile. Si on lit les mystiques chrétiens ou extrêmes orientaux, c'est pas ce dieu-là qui rassure nécessairement. Est-ce que vous croyez pas que c'est réducteur la conception qu'il a de Dieu, et donc la critique qu'il en fait?
Sans doute, parce qu'il parle bien davantage de la croyance en Dieu qu'en la spiritualité même, c'est-à-dire ce qui nous permet, absolument, à l'intérieur de nous-mêmes de trouver des ressources. Mais je dirais que la spiritualité, chez Freud, il la cherche en effet à l'intérieur, et qu'à défaut de se mettre en accord et de s'attirer les bienveillances d'un Dieu extérieur, dont vous dites très justement qu'il est assez caricatural, hein, tel qu'il est présenté par Freud, mais enfin...
Mais aussi dans la Bible, d'ailleurs.
Et aussi dans les croyances en général, bien de sûr, ceux qui croient en Dieu, qui souvent font un personnage qui n'est pas très loin du Père Noël, auquel les enfants croient, absolument, avec les mêmes invraisemblances et la même façon incroyable de battre en brèche tout ce qui pourrait aller à l'encontre de la véritable origine des cadeaux parentaux. Freud nous propose en effet d'aller chercher à l'intérieur une autre forme de spiritualité, c'est-à-dire non pas connaître ce mystère qui se cache derrière les nuages, ce mystère insondable de Dieu dans les cieux, mais bien ce mystère insondable de l'inconscient en nous, c'est-à-dire de cet autre en nous dont nous percevons parfois l'existence, qui se manifeste parfois, mais qui reste un mystère pour nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est une autre issue, une autre forme de spiritualité que propose Freud.
Et en même temps, on voit à travers son dialogue avec Romain Rolland, qui est extrêmement intéressant, que Romain Rolland lui oppose un peu l'argument que je lui ai posé en disant « mais il existe une expérience mystique qu'on peut appeler le sentiment océanique, on fait partie du tout, qui n'est pas du tout, qui ne répond pas du tout à la critique freudienne d'un père extérieur, etc. » Et Freud est un peu allergique à ça aussi.
Là, c'est Jung, ça, hein, le sentiment océanique, c'est quelque chose qui a été en effet développé par Jung, et ils n'ont pas été très copains sur la fin de leur existence, parce que Jung reprochait essentiellement à Freud ce qu'il appelait son pansexualisme. C'est-à-dire de...
Tout vient de la libido.
Tout vient de la libido. On a mal interprété d'ailleurs cette affirmation freudienne, parce que on en a fait en quelque sorte on a fait de Freud un obsédé sexuel, ce qui n'est pas le cas. Il était obsédé sûrement par quelque chose, c'est par l'importance du sexuel en nous, qui est évidemment pas le sexuel au sens purement génital, mais bien la dimension déjà de cette porte ouverte à l'éternité qu'est la sexualité dans la procréation, à des choses de ce genre.
Mais il me semble quand même que dans le débat entre Jung et Freud, il y a aussi autre chose qui se joue. Évidemment, il y a cet aspect qui est très important,
bien sûr.
Mais là, pour le sujet qui nous intéresse, qui est la question de la croyance et du fait que finalement, de moins en moins de gens croient dans ce Dieu-là, en tout cas, ce Dieu qu'a analysé Freud, à juste titre probablement, c'est que il m'a semblé que Freud a une peur, véritable peur, de sortir de son cadre qu'il veut scientifique. Et Jung l'incite avec ses questions sur la spiritualité, sur la mystique, y compris sur Dieu même. Il sort de ce cadre. Et Freud ne peut pas supporter d'exposer la psychanalyse à cela. Et j'ai l'impression quand même que son analyse... à ceci de réducteur, qu'elle est quand même l'héritière du positivisme scientiste du 19e siècle. C'est-à-dire que pour lui, la science ne peut que rejeter ces questions de croyance, ces questions d'invisible, ces questions de transcendance, alors que depuis, on a fait un certain trajet, en partie grâce à lui, d'ailleurs, paradoxalement, et que, par conséquent, aujourd'hui, on peut tout à fait penser... Dans un cadre scientifique, ces questions de croyance. Alors que chez lui, il y a une opposition radicale.
Je crois quand même que le danger de, comment dire, peut-être de dérapage était si grand quand on parle des productions qui d'habitude n'ont pas de titre de noblesse dans la pensée scientifique, c'est-à-dire le rêve, les actes manqués, l'inconscient même, qui est une notion difficilement situable scientifiquement sur un plan de topologie purement corporelle et même sur un plan psychique. Donc je pense que peut-être Freud a un peu radicalisé, vous avez tout à fait raison, hein. Freud voulait que la psychanalyse soit une science, donc il a essayé de radicaliser au maximum toutes ces positions, peut-être pour éviter en effet, et c'est ce que Jung a incarné par certains côtés, une dérive mystique, poétique, onirique. Et Freud avait affaire à une communauté scientifique qui l'agressait sans arrêt. Aussi scientifique fut-il, il a été extraordinairement agressé en prétendant que ses théories étaient absolument fumeuses. Donc je pense que c'est peut-être ce qui explique cette radicalisation. Voilà. Mais qui, à partir de laquelle on peut en effet beaucoup...
Oui, et ça a quand même des conséquences, à mon avis, très grandes, y compris dans l'enquête que vous, justement, à laquelle vous avez participé, dans l'analyse de l'enquête à laquelle vous avez participé dans ce numéro de clé. C'est que quand même, depuis ce temps, Freud a joué un rôle quand même non négligeable dans le fait que dans la conscience générale, publique, on pense que la religion est nécessairement contraire à la raison et à la science. Et c'est ça peut-être le problème.
C'est vrai que c'est une question, je ne sais pas si on peut y apporter une réponse, mais ce qui est fondamental, indépendamment du fait qu'il y ait une disparition progressive de la foi au sens traditionnel du terme, c'est de voir à quel point le besoin de croire est tout de même si solidement enraciné en l'homme qu'il faut qu'il se déplace peut-être sur d'autres objets qui deviennent, en effet, dans ce cas-là, des objets de croyance. Ce qui m'intéresse surtout, c'est pas tant l'analyse sociologique du fait que maintenant on croit en l'équipe de France, alors qu'on n'y croyait pas la semaine d'avant, ou qu'on croit dans le pouvoir de certains objets de nous apporter un secours quelconque. C'est vrai que je disais que certains objets prennent aujourd'hui, pour combler l'angoisse existentielle de l'homme, la place qu'occupait autrefois les gris-gris dans certaines civilisations, les médailles, les manteaux et les scapulaires dans d'autres.
Mais d'ailleurs, je crois qu'il faudrait distinguer, là c'est un peu l'historien des religions qui vous parle, il faudrait distinguer la superstition de la foi. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a toujours eu en parallèle des religions, de la superstition, dedans et dehors.
Signes extérieurs de religion, voilà. Comme il y a des signes extérieurs de richesse.
Et des fois, la religion, lorsqu'elle était plus rationnelle, combattait la superstition. Il ne faut pas totalement les identifier.
C'est vrai.
Et la superstition continue aujourd'hui. C'est-à-dire que l'effondrement des religions, évidemment, entraîne simplement le fait qu'on voit beaucoup mieux la superstition qui existe de manière complètement laïque.
Parce que, quelque part, tout de même, même si vous avez tout à fait raison, que la religion a combattu la superstition, n'empêche que...
En la remplaçant par une superstition plus élaborée,
voilà, plus élaborée, et que ce que j'entends moi dans ces objets, indépendamment du fait qu'ils représentent quelque part la religion ou juste la superstition, c'est quand même qu'ils visent encore une fois à combler un manque à être, une angoisse massive, et que ces objets aujourd'hui très présents chez nous, il suffit de passer. Je suis très impressionné dans la rue par le spectacle des personnes suspendues à leur téléphone mobile.
C'est une addiction.
C'est même pas une personne sur deux, c'est deux personnes sur trois. Et on peut y voir simplement le souci de communiquer, mais ne soyons pas dupes. Le souci de communiquer ne serait pas apparu avec le téléphone portable. C'est le souci d'être toujours en lien avec l'autre. Il est évident que cet appareil, dont vous savez comme moi quelle est la formule introductive, ça n'est plus allô, c'est t'es où ? Ce qui montre bien que l'interrogation majeure de l'autre, c'est pas tant de savoir comment il va, c'est où est-il,
est-ce que je suis connecté, relié,
où est l'autre, c'est une question permanente. Alors, évidemment, l'angoisse a disparu sous la convention même, mais elle est là au point que les gens risquent leur vie en traversant tellement ils sont branchés sur l'autre et plus sur le monde extérieur mais sur l'autre absolu qu'ils ont envie d'entendre. Donc il y a quelque chose là qui... Évidemment, passer du téléphone portable à l'idée de Dieu, ça semble un peu culotté, mais je crois qu'il y a quelque chose dans ce grand autre qui est incarné par cette question permanente. Où es-tu ? Thank you.
sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin de Jean-Louis Servan-Schreiber et de Philippe Grimbert, à l'occasion du dossier de clé intitulé « Par quoi remplacer Dieu ?». Alors justement, Jean-Louis Servan-Schreiber, j'aimerais qu'on poursuive cette conversation avec vous pour que vous nous expliquiez un petit peu ce sondage que vous avez fait, qui est très riche, et nous en dire les principaux enseignements.
Alors, il y a une chose, évidemment, que vous avez cité tout à l'heure, qui est le fait qu'il n'y a qu'un tiers, en fait, des Français qui croient réellement en Dieu. Les autres, ou n'y croient pas, ou disent « je ne sais pas ». Et ça fait 25% le « je ne sais pas » quand même. Donc, au total, ça fait les deux tiers pour qui Dieu n'est plus quelque chose qui soit utile dans leur vie, ou réaliste. Mais ce que je trouve intéressant dans ce sondage d'OpinionWay qui est rentré un peu dans le détail, c'est que même chez ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, même chez les catholiques, puisqu'il y a quand même 56% de gens qui se déclarent catholiques, mais que seulement...
C'est beaucoup moins qu'avant.
Beaucoup moins qu'avant, et c'est un chiffre qui est en diminution très forte, puisque il y a eu un sondage Gallup un peu mondial qui montre que la croyance a diminué depuis le début du siècle de près de 10% en France, de 21% aux États-Unis, ce qui est gigantesque pour les États-Unis. Donc, c'est accéléré. Donc, il n'y a que 56% qui se déclarent encore catholiques. C'est évidemment le taux le plus faible d'Europe. Et nous partageons ça avec la Tchécoslovaquie, la Tchéquie maintenant. Mais à l'intérieur de ceux qui sont catholiques, ceux qui croient vraiment au Dieu du catéchisme, alors là, sont très minoritaires, puisque ça ne représente plus que, en gros, c'est celui avec qui on peut dialoguer, c'est-à-dire un Dieu un Dieu qui corresponde à un dialogue personnel, 17%.
Des catholiques.
Donc, les autres, c'est une énergie surnaturelle. La nature, c'est spinoziste, d'une certaine manière. Et en gros, la croyance contemporaine, c'est de dire je crois, mais je ne sais pas très bien en quoi. Voilà. Et ça, je trouve, c'est une tendance très particulière à la France, mais qui est un peu précurseur de ce qui se passe dans le monde.
Oui, donc ce qui est surtout remis en cause, c'est les représentations de Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait plus très bien, même si on continue de penser que la vie a peut-être un sens, qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Comme disait Einstein déjà, il disait « l'expérience la plus profonde que peut faire l'homme, c'est celle du mystère ». Mais en même temps, on n'aime plus nommer et donc on ne peut plus se relier, comme ça a été le cas pendant des millénaires. Donc c'est une mutation très profonde, effectivement.
Alors, elle est tout à fait intéressante parce que Philippe nous a dit l'importance de la croyance. J'ai même découvert récemment qu'il y avait une science qui s'appelait la neurothéologie et que c'était une constatation qui avait été faite qu'il y a peut-être certaines gènes qui prédisposent à la croyance et que ça serait en quelque sorte variable selon les individus, des gens qui ont davantage besoin ou le sentiment de se retrouver dans le besoin de croire.
Mais quelle que soit la croyance, là,
c'est pas spécialement la croyance. Ça devait être vrai même avant l'invention du monothéisme, si c'est vrai, n'est-ce pas ? C'est en chantier, mais il y a suffisamment d'expériences qui montrent qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Mais ce qui, évidemment, correspond à l'époque moderne, après l'ère des Lumières, après le rationalisme, etc., c'est que le Dieu des Bédouins, tel qu'il était celui des premiers temps à l'invention du monothéisme, il était trop personnel. Il parlait, il avait des craintes, des
rages. Trop de passions humaines, finalement.
Des passions humaines. Il était implacable, il pouvait pardonner. Et là, c'est moins crédible. Pour autant, et c'est ça pour ça que j'ai voulu faire ce dossier très spécial dans Clé sur le thème de « Par quoi remplacer Dieu ?», pour autant, on n'a pas remplacé Dieu. C'est-à-dire que ce besoin de croire, que cite Philippe, ce besoin peut-être neuronal de croire, ne trouve plus de point d'appui. Et nous sommes chacun peut-être un peu en une espèce de malaise, de dérive, de recherche de quelque chose, mais nous ne savons plus très bien quoi. Alors, peut-être que c'est ça qui prouve que le 21e siècle sera religieux, mais d'une autre manière que prévu.
Oui ce qui est intéressant, effectivement, c'est que vous expliquez, et c'est ce que vous disiez aussi, Philippe Grimbert, qu'il y a un besoin fondamental de croire qui s'exprime dans l'être humain comme une sorte d'invariant, finalement, anthropologique, et qui a besoin d'un objet, mais cet objet est en train de changer, finalement.
Oui, et il devient indéfinissable.
Indéfinissable, et il prend des formes multiples de la superstition dont Philippe Grimbert, on a commencé à parler tout à l'heure.
On se rapprocherait peut-être même davantage du polythéisme, curieusement, finalement. Que du monothéisme.
Ah, mais on est, quand on voit l'importance des marques, des clubs de football, oui, des vedettes de télévision, il y a déjà des polythéismes qui ne portent pas ce nom, mais qui sont très apparents. L'adhésion, besoin d'adhérer des gens à un club de football, comme c'est étonnant, ça a remplacé complètement le patriotisme, hein, parce qu'il n'y a plus personne qui a cette attitude.
En même temps, c'est une autre dimension de la religion, parce que je crois qu'il y a deux dimensions dans la religion. Il y a la dimension verticale, qui est la croyance en Dieu ou en une transcendance, puis il y a la dimension horizontale, qui est le besoin de communion. Et le problème de la sortie de la religion, c'est qu'on a besoin de communion, on a besoin de tous se fédérer ensemble autour de quelque chose qui nous met dans une émotion collective, dans un partage de valeurs communes. Et comme il n'y a plus des valeurs transcendantes, ben on les cherche dans le sport, dans la
dans
musique.
Dans les stades, dans les salles de concert.
Et ce besoin, d'ailleurs, curieusement, dans certains cas, reste structuré exactement comme la religion traditionnelle. Nous avons dans ce racontons dans ce dossier l'histoire d'un pasteur américain qui est en Louisiane. La Louisiane, c'est au cœur de ce qu'on appelle le Bible Belt, c'est-à-dire l'endroit où la croyance est. En Louisiane et dans les régions du sud américain, déclarer je suis athée est beaucoup plus difficile que déclarer je suis homosexuel. Le coming out est devenu, là où il est dur, c'est en matière d'athéisme. Et ce malheureux a perdu la foi. Ça s'est su. Il a évidemment perdu son poste. Il a perdu un job qu'il avait pour gagner sa vie, parce qu'il y a eu pression des groupes religieux en disant qu'il ne pouvait quand même pas employer quelqu'un qui est athée. Et du coup, sa femme, c'était trop pour elle, est partie en pleurant. Donc, il se retrouve tout seul. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de recréer des cérémonies pour les athées, il y en a peu, mais ils se retrouvent, qui ont besoin de se retrouver en congrégation, ça c'est très américain, et ils prêchent. Et ils prêchent la bonté, la fraternité, toute une série de choses, simplement il n'y a pas Dieu. Et j'ai vu une vidéo de lui en train de prêcher, et il chante exactement comme les pasteurs du Sud, mais sans Dieu. Donc le besoin là, il est incroyable.
Cela dit, les religions sans Dieu existent depuis longtemps. Prenons le bouddhisme. C'est l'exemple parfait d'une religion sans Dieu. La critique rationnelle est extrême sur l'au-delà et sur le monde invisible a été radicale. Et en même temps, c'est redevenu une religion avec des rituels, des codes, ce qu'on parlait tout à l'heure de l'importance du rituel. Bah, les bouddhistes, il n'y en avait sans doute pas beaucoup dans le bouddhisme primitif, mais aujourd'hui, c'est ça qui domine.
Et il y a deux choses intéressantes à propos du bouddhisme. La première, c'est que dans cette nouvelle science, la neurothéologie, évidemment, il y a une résistance considérable des religions traditionnelles pour refuser cette approche en disant non, ça ne peut pas être neuronal, c'est beaucoup plus important que ça. Sauf le bouddhisme. Et le Dalai Lama est passionné par ça. Et lui dit, faisons les recherches parce que, et c'est là, c'est beaucoup plus facile quand il n'y a pas Dieu, quand il y a juste besoin de religion et que peu importe la source, il existe. Et le bouddhisme, à l'origine, n'était pas une religion. Et c'est petit à petit que les humains l'ont construite comme une religion compliquée, comme toutes les religions, sur le plan des rituels. Donc je pense que c'est autour de ce besoin, je trouve, que l'on touche à quelque chose de très important en ce moment.
Lélie Ova.
Oui, mais en même temps, c'est vrai que les résultats de cette étude montrent que nous sommes dans des paradoxes tout à fait saisissants. Vous dites, nous sommes 63% à penser que la religion est peu ou pas importante pour réussir sa vie, ce qui est quand même très intéressant. Et puis...
C'est le sondage. Hein.
C'est le sondage. Il y a quand même 70% de gens qui pensent que les religions sont un besoin essentiel de l'homme, elles vont perdurer même si elles se transforment. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
Bien sûr que non, mais je pense qu'on se retrouve toujours en matière de sondage devant cette alors même tendance, quelle que soit la nature du sondage. Vous savez, en général, on dit aux gens comment va le pays ? Très mal, très mal. Et vous ? Bon, moi, je m'en tire. Hein. Et dans tous les domaines, il y a ça. Et c'est d'ailleurs plutôt rassurant, car imaginez que ce soit l'inverse. Bon, ça vaut beaucoup mieux de penser que les individus peuvent, au fond... Bon, et là... je crois que les religions, d'une certaine manière, sont très présentes dans les médias à cause des guerres autour de, enfin, de tout le terrorisme et des guerres qui sont autour de l'islam, à cause du fait qu'il y a des affrontements, même dans nos cités, entre des gens qui sont de communautés différentes. Donc on a l'impression que le problème religieux est très prégnant. Mais à titre personnel, les gens ne vivent pas comme ça. Donc on peut dire que ça doit être un besoin essentiel de l'homme parce qu'on en parle tellement et parce que c'est vrai qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais en même temps, moi, je ne sens pas ça de cette même manière.
Et en même temps, peut-être que c'est la voie de sortie vers peut-être une autre interprétation de la religion. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens confondent Dieu, religion, spiritualité, bien superstition. Sûr. Tout ça, ce sont des frontières extraordinairement floues.
Oui.
Parce qu'en même temps qu'il y a une désaffection du religieux, regardez le succès des livres qui parlent de questions spirituelles. Donc la désaffection du religieux ne signifie absolument pas désaffection du spirituel. Et je ne pense pas que c'est parce qu'on a besoin, dans le sens, on a besoin d'inventer une croyance. Il me semble quand même que c'est parce que c'est dans la nature de l'être humain d'être dans cette quête qui est quand même la quête du sens et de la vérité.
La quête, la face au mystère, aux nombreux mystères en face desquels nous sommes, celui de naître, celui de mourir, il n'y a toujours pas de réponse, n'est-ce pas ?
Donc l'être humain, par essence, doit faire face à un manque absolu, qui est même un manque de connaissance et sur lui-même et sur les origines de son être. Peut-être que quand on parlait tout à l'heure de verticalité, qui est disons, la croyance qui nous amènerait à lever la tête et l'horizontalité qui nous amènerait à communier avec les autres dans cette croyance, c'est peut-être là que se pose plus clairement la question de la parole et du langage. Parce que quand même, Freud nous l'a enseigné, mais Lacan l'a encore plus expérimenté, c'est-à-dire le pouvoir de la parole et surtout le fait que non seulement nous ne soyons pas utilisateurs de la parole, mais aussi fabriqués par la parole. Quand on dit nous sommes des êtres de langage, c'est à entendre comme l'arbre est de bois. Nous sommes de parole, c'est-à-dire que nous sommes constitués par la parole. Or, Freud l'a montré avec les symptômes, qui sont vraiment une traduction sur le corps de formules fantasmatiques, vraiment qu'on peut énoncer comme un scénario et qui ont des effets sur le corps, et bien d'autres choses. Ceci pour dire que nous sommes constitués par la parole. Et si nous sommes constitués, si notre ossature symbolique c'est vraiment est réelle, c'est vraiment la parole, où est la garantie de la parole ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans la parole même, fait garantie ? Est-ce que, quelque part, quelqu'un peut nous dire que cette personne qui parle n'est pas en train de mentir ? On n'est jamais sûr. Le langage, en effet, ne présente pas de garantie. Ce que Lacan formulait, c'est qu'il n'y a pas de méta-langage, c'est-à-dire un autre langage qui vous dirait « là, c'est vrai, là, c'est pas vrai ». Non, le langage est comme ça. Or, c'est ce qui nous constitue. C'est pas étonnant que ça crée une béance et que cette béance nous amène à chercher une garantie quelque part. Et où trouver une garantie, sinon, dans la parole ? La seule qui soit du côté de la vérité absolue, la parole divine. Je crois que c'est peut-être une des explications de ce besoin de spiritualité qui fait que même quand Dieu est mort, le besoin de croire n'est pas mort, loin de là. C'est-à-dire que c'est une nécessité intime qui, elle, perdure et qu'il faut bien trouver soit du côté de ce qu'on disait, ce polythéisme des marques, des dieux du stade, par exemple, des chanteurs, des stars. C'est quand même toujours des gens qui se situent dans les étoiles. Mais il y a aussi, d'un autre côté, cette explication qu'on peut trouver dans le besoin constitutionnel de l'humain de se rassurer sur une garantie.
Mais alors, je ne suis pas d'accord avec cette comparaison que vous faites depuis le début, entre les dieux du stade. Parce que vous venez de le dire, vous touchez, je crois, au cœur du sujet. D'ailleurs, dans votre article qui est dans Clé, c'est vraiment un passage qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée. C'est la question, vous avez dit, du langage et donc du vrai. Ce n'est pas une question que je vais inventer quelque chose. Non, c'est qu'il y a constitutionnellement chez l'homme une foi dans le fait que la vérité est possible. Et ça n'a rien à voir avec les grands rites dans les grands stades. Ça n'a quand même rien à voir avec la vérité.
Non, non.
Et la question du langage, elle touche à cela. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « moi, je ne crois pas en Dieu », il croit quand même dans la possibilité du langage, parce qu'il croit dans la possibilité d'une vérité. Oui ou non ?
Oui.
Donc il y a quand même une différence radicale.
À condition de ne pas confondre vérité et exactitude. Je crois qu'il y a là quelque chose de fondamental. La vérité est quelque chose qui vous fonde, l'exactitude est quelque chose qui vous aide à travailler. C'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a quelque chose de cet ordre. Oui, vous avez raison de faire cette distinction, mais cette quête de vérité, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle naît forcément d'une fissure dans l'être. C'est-à-dire que si on a besoin de vérité, et si on a à ce point ce besoin, et si on est dans cette recherche engagée à ce point, c'est bien que cette vérité n'est pas garantie. Sinon, on ne la chercherait pas avec une telle intensité, une telle fébrilité, je dirais. Donc,
quand on la garantit, on est un fanatique.
C'est avec cette pirouette que je m'en sortirai pour aujourd'hui.
Oui, on trouve à travers cette notion de vérité, le vrai problème du langage, c'est que chacun l'utilise à sa manière. Et que la vérité en question, à titre personnel, je me permets de m'exprimer pour mon compte, je dirais, pour moi, la vérité n'existe pas. C'est tout à fait impossible. Ce qui est possible, c'est d'avoir sa vérité. Mais la vérité, si on l'avait trouvée, ça se saurait. Ou alors, ça se sait quand on a une croyance. Et au fond, cette recherche de vérité, qui est un petit peu une espèce de quête du Graal de l'humanité, elle s'est résolue dans des croyances. À ce moment-là, on a le sentiment d'avoir quelque chose de ferme. Mais aujourd'hui, où tout est branlant et où tout est fragmenté, y compris la vie de chaque individu, puisque chacun doit mener sa vie non seulement à titre individuel, mais en plus de ça avec des périodes et des situations de plus en plus différentes. Donc cette pulvérisation, je trouve, des modes de vie humains de notre époque, qui est vraiment la grande caractéristique et beaucoup plus importante que la vie politique et la crise économique, qui est quelque chose qui va nous accompagner au-delà du siècle probablement. Mais c'est tout ça à la fois. C'est que le doute est devenu général. Et nous ne savons plus de quoi nous pouvons être sûrs.
On est tous des disciples de Montaigne et donc des sceptiques. C'est vraiment le scepticisme, c'est le propre de la modernité qui a remis en cause.
Et c'est pas facile à vivre.
C'est formidable d'être dans la quête permanente de la vérité. C'est même ce qui nous anime. La trouver n'est pas forcément une bonne chose parce que c'est la voie ouverte, le fanatisme. Les fanatiques sont dans la vérité.
Tout à fait.
Ils ont la vérité.
Oui, mais par exemple, Rumi a une très belle image de ça. Il dit en réalité, la vérité est un miroir qui est tombé qui en tombant sur la terre, s'est brisé en mille morceaux. Et chacun a pris un éclat de ce miroir. Oui. Et il croit en effet que c'est la vérité. Ce n'est pas contradictoire. Ce que vous dites des vérités n'est pas contradictoire avec ce dont j'ai parlé. Je ne dis pas qu'il y a une vérité, je dis qu'il y a une idée de la vérité qui fonde le langage, qui fonde la confiance, qui fonde la possibilité même que nous soyons ici en train de nous parler.
Oui, mais cette idée de vérité, c'est plutôt le vrai comme conformité aussi entre ce qu'on dit et la réalité. C'est-à-dire, en fait, c'est l'exactitude de ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. À ne pas confondre avec la vérité métaphysique, où là, effectivement, c'est sans fin.
Voilà, mais c'est lié. Je veux dire, l'un dépend de l'autre.
Pour rebondir sur ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, c'est que la psychanalyse est tout à fait de ce côté de permettre à quelqu'un de trouver sa vérité et certainement pas de trouver la vérité.
Peut-être pour nous réconcilier, je vous ai apporté un texte de Gandhi. Pour moi, Dieu est vérité et amour. Il est le bien, source de la morale. Et en lui, nulle crainte n'est possible. De lui vient la lumière et la vie, et pourtant, il est au-dessus et au-delà. Dieu est conscience morale, il est même l'athéisme de l'athée. Il transcende la parole et la raison. C'est un Dieu personnel pour ceux qui désirent sa présence personnelle. Il est incarné pour ceux qui cherchent sa présence tangible. Il est l'essence la plus pure pour ceux qui ont la foi simplement. Il est. Il est en nous et bien au-delà. Il est indulgent et patient, mais il est aussi redoutable. Pour lui, l'ignorance n'est pas une excuse. Et en même temps, il est toujours miséricordieux, car il nous donne toujours l'occasion de nous repentir. Il est le plus grand des démocrates que le monde ait connu, car pour mieux nous laisser choisir entre le bien et le mal, il n'exerce pas la moindre pression sur notre liberté. Et on n'a jamais vu plus grand tyran car il intervient souvent pour tout à coup nous retirer la coupe que nous portions à nos lèvres et respectant un semblant de libre arbitre, nous laisser alors une marge assez imperceptible pour que notre réponse ne puisse que le combler de joie.
Philippe Grimbert, ce texte de Gandhi vous inspire-t-il ?
Dieu est l'athéisme de l'athée. J'avais envie de dire que c'est une formule qu'on pourrait lui reprocher, comme on reproche à la psychanalyse, d'expliquer tout. C'est-à-dire ceux qui sont contre la psychanalyse, c'est parce qu'ils ont des problèmes psychiques qui relèvent de la psychanalyse. On arrive de... Voilà ce que m'inspirait, indépendamment de toute l'admiration que j'ai pour ce texte. Mais évidemment qu'on a tenu, en tant que psychanalyste, parfois des discours semblables vis-à-vis des adversaires, ceux qui ne croyaient pas en la psychanalyse. C'est parce que, évidemment, ils avaient en eux une problématique qui ne leur permettait pas d'accéder à la psychanalyse.
Moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce sondage, qui est vraiment très détaillé et intéressant, c'est de montrer, même si on peut réduire les choses simplement en disant voilà, il n'y a plus qu'un tiers des Français qui croient en Dieu, c'est le Dieu auquel on fait référence parce que c'est le Dieu de la culture. Je suis frappé de voir entre ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne savent pas, etc. et tout, en fait, une majorité des Français sont plutôt ouvert à cette question sans avoir d'idée. C'est ça qui, Jean-Louis Savant-Schreiber, qui me frappe plutôt, c'est l'évolution vers une sorte d'agnosticisme au sens propre du terme. C'est-à-dire, on ne sait pas.
Oui, et ça, c'est à la fois ce qu'il y a de déroutant et de passionnant dans l'époque, c'est cette ouverture. Cette ouverture, c'est un questionnement généralisé. La difficulté sur le plan de la vie concrète au sein d'une communauté comme une patrie, comme la nôtre, une nation, c'est qu'il y a des gens qui ont une conception extrêmement sommaire de la foi, d'autres qui la regardent avec une grande ouverture d'esprit, et que ça peut provoquer, et ça provoque des incompréhensions et des zones de choc qui peuvent être très brutales, puisque ça amène aussi à des comportements, heureusement pas en France maintenant, mais de terrorisme, et ce qu'il y a de plus dur dans le terrorisme, c'est-à-dire l'auto-sacrifice pour tuer les autres. Et ça, c'est basé sur des fois. On voit que les mots sont meurtriers, quelquefois.
Mais comme il y a eu au XXe siècle des foi non religieuses qui ont exterminé des gens, c'est-à-dire que on sait très bien que les totalitarismes
politiques... Mais c'était une foi.
Oui, mais non religieuse, qui ne fait pas référence à Dieu. Oui. Le communisme ne fait pas référence à Dieu, c'est issu effectivement d'une conception athée, et en même temps, combien de morts dans les goulags. Donc on s'aperçoit que quand on enlève Dieu, s'il reste la croyance, elle peut être tout aussi totalitaire. Mais alors, est-ce qu'on peut se passer complètement de croyance ? Donc c'est la question, évidemment, qui est centrale. Puisque vous nous disiez tout à l'heure, Jean-Louis Savant-Schreiber, qu'au fond, il y a toujours des croyances, et vous aussi, Philippe Grimbert.
Je ne crois pas qu'on puisse se passer de croyance. Je crois qu'il y a au plus profond de l'humain ce besoin de croire, qui est d'ailleurs le sujet du magazine Clé de ce mois-ci. Mais c'est étonnant de voir comme la croyance peut se réfugier parfois dans des choses qui nous paraîtraient les plus futiles. Jean-Louis m'avait demandé de réfléchir à la question des marques. Et il est vrai que qu'est-ce qu'il y a de plus superficiel qu'une marque ? J'achète de la marque. Or, il se trouve qu'on voit bien que derrière cette superficialité qui consiste à dire « moi, je porte telle marque », il y a quand même quelque chose qui rassure, qui soutient, qui inclut dans une communauté, qui donne certainement à celui qui la porte un surcroît d'existence. Or, si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, la marque... c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible comme la marque divine. C'est à cela que vous me reconnaîtrez, à cette marque sur votre front. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve joli que la marque la plus superficielle puisse peut-être quand même renvoyer à la marque divine. Très lointainement, nous sommes bien d'accord.
La seule fin ou apaisement de la fin de la croyance, c'est la connaissance. On n'aura plus besoin de croyance ce jour où on saura tout. Oui, c'est-à-dire jamais.
Voilà. On en revient toujours là. Voilà. C'est que le mystère du monde et de la vie. Et plus la science progresse, plus elle recule les frontières du mystère de l'explicable. Et c'est peut-être la limite de Freud. On revient au début de cet entretien. C'est qu'il espérait que tout serait rationalisable. Mais tout n'est pas rationalisable. Ni dans l'univers, ni dans l'être humain, qui reste profondément irrationnel, comme Edgar Morin l'a très bien montré. Il a à la fois sapiens demiens. Il a cette double dimension qui fait sa richesse aussi, sa créativité, son affectivité.
C'est pour ça que la période est absolument fascinante, parce qu'on est en train de reconnaître que le mystère, les mystères, très peu nombreux d'ailleurs, parce que la plupart des autres sont des énigmes que l'on a résolues. Mais les mystères qui resteront, il n'y a aucune chance, en tout cas de nos vivants et peut-être de ceux de nos descendants, qu'on puisse les percer. Et donc il faut qu'on s'aménage une attitude vis-à-vis de cela. Et c'est pour ça que c'est une recherche spirituelle au sens simple du terme, qui est presque généralisée, presque obligatoire, mais chacun l'aborde de manière tellement à sa manière.
Toujours lié à l'idée, évidemment, de la menace de la fin de la vie et de la mort. Parce que, au fond...
Je voulais terminer l'émission là-dessus, donc voilà. Parce qu'il y a aussi des informations intéressantes.
Vous voulez que je m'en charge ?
Allez-y.
Il est vrai que
c'est quand même le fond du problème.
Pour les croyants, c'est quand même... On disait ces énigmes qu'on a résolues, mais celles qu'on ne résoudra jamais, si... Pour le croyant, c'est la mort qui va permettre de résoudre l'énigme suprême.
On saura enfin.
Croyant, on saura enfin. Et pour les autres, je dis à ceux qui sont incroyants, il leur arrivera ce que disait, hélas, je ne sais plus quel auteur, mais que j'avais beaucoup aimé, et au moment de savoir, il ne pouvait plus savoir.
Jean-Louis Savoie-Schreiber, il y a une question sur la mort dans votre sondage.
Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Alors, 46% disent qu'il n'y a rien. Ce qui est déjà énorme par rapport au reste de la population mondiale. Et seulement 31% disent « il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi ». Et donc, en ce qui concerne les critères habituels de la religion catholique, qui est celle de la culture dominante dans ce pays...
Donc la résurrection.
Alors, la résurrection, c'est 3%.
Oh là, effectivement.
La réincarnation, alors ça, c'est pas nous, si je puis dire culturellement, mais c'est les voisins, 6%. Et l'immortalité.
Plus de gens qui croient dans la réincarnation que dans la résurrection.
Que dans la résurrection, oui.
C'est plus compréhensible, effectivement.
Et l'immortalité de l'âme, 13%. Donc, à quoi ça sert, au fond, d'être croyant si on n'a pas plus de garantie que ça?
Et c'est vrai que c'est intéressant, ce décalage même entre des catholiques pratiquants qui ne croient pas en une vie après la mort. Ça, effectivement, on peut s'interroger.
C'est montré le désarroi.
C'est curieux, comme la méconnaissance s'accroît au rythme des inventions les plus subtiles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fascinant. À l'époque où il n'y avait que des chars à bœufs, la grande question, c'était qui a créé l'univers. Mais aujourd'hui, comment fonctionnent les ondes? Comment est-ce qu'on peut recevoir un appel téléphonique quand on est au Japon alors que quelqu'un vous appelle de Paris? Tout ça sont des mystères que les scientifiques expliquent, mais que la majorité du public ne peut pas percer. Nous vivons dans un monde... quasiment inexplicable.
Je crois que nous sommes écrasés par la connaissance, en fait. Mais ce n'est pas celle dont nous avons le plus besoin dans certains cas. Et c'est pour ça qu'il y a un champ, je trouve, qui s'ouvre extrêmement vaste pour essayer de trouver une forme de transcendance dans le monde tel qu'il est, qui nous sorte un petit peu de... On a le nez au ras de la connaissance, ce qui nous empêche de voir. Et il y a une soif de ce côté-là.
Oui, vous dites transcendance, et moi j'avais envie de dire justement, peut-être ce qui m'a le plus frappé dans ce sondage, c'est de voir qu'il n'y a plus la quête des profondeurs, mais ça se rejoint. Entre la transcendance et la profondeur, évidemment, les deux se rejoignent. Et c'est peut-être ça, on a beaucoup parlé de surface, de superficialité, et ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu dans l'affaire la profondeur.
Eh bien, Lélie, c'est sur cette parole que nous allons clore cette émission. Je vous remercie beaucoup, les uns aux autres, d'y avoir participé. Et je rappelle, effectivement, ce dossier, si vous voulez aller plus loin, clé, le numéro de décembre-janvier, un grand dossier, par quoi remplacer Dieu. Merci à tous. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Audrey Fella, Pierre Lory et France Bhattacharya pour parler des femmes mystiques d'Orient et d'Occident. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Dans quelques instants, vous retrouvez le journal de la rédaction. Très beau dimanche à tous.